Bienvenue dans Le Logement, comment ça marche ? Votre chronique hebdomadaire proposée par l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour aborder la question de l'accession à la propriété. La hausse significative des prix de l'immobilier, qui ne vous aura pas échappé, rend difficile l'achat de la résidence principale pour une majorité de Français. La rareté du foncier et par voie de conséquence l'augmentation de son coût en sont les principales causes. Cette tension du marché, notamment en secteur urbain, amène les futurs acheteurs à chercher des solutions alternatives, plus abordables. Et parmi ces formes d'accession sociale à la propriété, nous avons la location-accession qui, malgré de nombreux atouts, est semble-t-il insuffisamment connue et utilisée. Cette voie, nous la mettons en lumière dans notre émission Le Logement, comment ça marche ? Pour en parler, j'ai à côté de moi notre expert Thierry Moalic, le directeur de la DIL des Bouches-du-Rhône. Bonjour Thierry.
Bonjour Manon.
La location-accession s'adresse aux ménages à revenus modestes ou moyens. En quoi consiste exactement cette opération ?
Eh bien, c'est très simple. Dans un premier temps, le ménage intègre le logement en tant qu'occupant en contrepartie du règlement d'une redevance d'occupation. Ce ménage a, dans un second temps, la possibilité d'en devenir propriétaire. Il s'agit de sécuriser le parcours résidentiel du ménage. Le montant réglé durant la phase locative correspond ainsi à la mensualité qu'il aurait à régler en cas d'acquisition. Cela lui permet de s'assurer de sa capacité à supporter cette charge financière avant de se lancer dans l'accession proprement dite, mais également de se constituer progressivement un apport pour cet achat. La redevance versée comporte en effet une part d'épargne.
Une première période de jouissance, donc, durant laquelle le ménage n'est pas encore propriétaire, mais pas non plus vraiment locataire.
C'est exact. Pendant cette première période, l'accédant est occupant du logement et règle au vendeur une redevance mensuelle. Mais à la différence d'un loyer qui est la contrepartie seule de l'occupation du logement, la redevance ici comprend deux parties. Tout d'abord, une part dite locative, qui correspond au droit d'usage du logement et qui est définitivement acquise au vendeur. De façon générale, la part locative constitue la plus grosse partie de la redevance. Et ensuite, il y a une part acquisitive, qui correspond à une fraction du prix de vente du logement. En cas d'achat, cette somme viendra en déduction du prix de vente. À défaut d'achat, elle sera restituée au ménage. Au fil des mois, l'accédant se constitue ainsi une épargne.
Autre différence avec la location, l'accédant doit payer les charges annuelles, telles que les contributions, les taxes, les impôts.
Oui, par ailleurs, il sera tenu à une obligation d'entretien renforcé du logement. Il devra ainsi procéder à l'ensemble des réparations du logement, le vendeur conservant la seule charge des grosses réparations. Enfin, et dès lors que le logement est situé dans un immeuble en copropriété, ou compris dans le périmètre d'une association syndicale, l'accédant pourra participer à la gestion de cet immeuble et disposera ainsi d'un droit de vote en assemblée pour les questions qui le concernent.
Quelle est la durée de cette phase locative ? Est-ce que le locataire peut se porter acquéreur à tout moment ?
Si pendant longtemps la durée de la phase locative était librement fixée, elle est aujourd'hui réglementée à 6 mois minimum. Ce n'est qu'au-delà de cette date que l'accédant pourra se porter acquéreur. On parle de levée d'option d'achat. En pratique, passé ce délai de 6 mois et pendant la période de jouissance fixée au contrat, l'accédant peut faire part de son souhait d'acquérir le bien à tout moment. Le transfert de propriété, qui supposera alors de verser le solde du prix restant à payer, devra être constaté par acte de vente devant notaire. En cas de recours à un ou plusieurs prêts, le transfert de propriété sera subordonné à la condition suspensive de l'obtention du ou de ces prêts. Si 3 mois avant le terme de la période de jouissance, l'option n'a pas été encore levée, le vendeur mettra en demeure l'accédant de se positionner. En cas de renonciation de l'accédant à acquérir le bien, il ne pourra bénéficier d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf convention contraire. Il devra ainsi libérer le logement.
Comment bénéficier d'une telle opération ? Est-ce qu'elle peut être proposée par tout vendeur ?
En réalité, tout part du financement de l'opération par le PSLA, c'est-à-dire le prêt social location-accession, que seules les personnes morales peuvent mobiliser, à savoir les organismes d'HLM, les SEM, les promoteurs privés. L'opération de location-accession nécessite l'obtention préalable par l'opérateur d'un agrément, ainsi que la signature d'une convention avec l'État.
Ce prêt PSLA suppose donc des démarches administratives plus lourdes, mais qui, j'imagine aussi, présente un avantage par rapport à un financement classique.
Exactement. Elle présente un intérêt financier et fiscal, à commencer par le plafonnement du prix de vente du logement. La convention conclue entre l'État et l'opérateur fixe un prix de vente moyen par mètre carré de surface utile pour les opérations financées en PSLA. Ce plafonnement, couplé au bénéfice d'un taux de TVA réduit à 5,5, ainsi qu'à une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans, permet une offre de logement très attractive. Au-delà de ces avantages financiers, l'accédant bénéficie par ailleurs d'un mécanisme particulier de protection.
Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette protection offerte à l'accédant dans le cadre de la location-accession ?
Oui, le financement d'une opération au moyen d'un PSLA offre deux garanties à l'emprunteur. Une garantie de relogement et une garantie de rachat. Concernant la garantie de relogement, en réalité, deux types de garanties coexistent selon que le locataire accédant a levé ou non l'option d'achat. La garantie de relogement assure tout d'abord aux ménages qui ne seraient finalement pas en capacité d'acquérir le logement à l'issue de la période de jouissance d'être relogés dans le parc social, le parc HLM, sous réserve de ne pas dépasser un plafond de ressources. C'est également la possibilité pour un ménage ayant levé l'option d'achat et rencontrant un accident de vie de bénéficier, sous conditions de ressources, d'une offre de relogement dans un logement locatif HLM.
Et concernant la garantie de rachat ?
Elle est, quant à elle, destinée à accompagner l'accédant devant faire face à un accident de vie, divorce, décès du conjoint, chômage supérieur à un an, invalidité. Et cette garantie de rachat peut être mise en œuvre jusqu'à 15 ans à compter de la vente et dans un délai d'un an suivant l'événement subi. Elle consistera pour le vendeur à racheter le logement au prix de vente versé. Si ce rachat intervient dans les 5 premières années, le prix de rachat sera minoré si celui-ci a lieu plus tard.
Il s'agit là de garanties et avantages plutôt attractifs pour un candidat à l'accession à la propriété qui n'existe pas dans les achats immobiliers ordinaires. Vous avez évoqué le concept de ménage à ressources modestes à plusieurs reprises. Ça veut dire que donc pas tout le monde peut y prétendre.
C'est exact. Dans le cadre du PSLA, les logements en location-accession sont accessibles à des ménages dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources du prêt à taux zéro, le PTZ, dans sa version antérieure à 2011. Ces plafonds font l'objet d'une révision annuelle que les conseillers de la DIL connaissent parfaitement. Ainsi, si on prend pour exemple un ménage avec deux enfants, le plafond à respecter serait de 59 263 euros de revenu fiscal de référence qu'on appelle aussi le RFR.
Vous évoquez justement le prêt à taux zéro. Le locataire accédant peut-il y prétendre et est-ce qu'il peut aussi solliciter d'autres prêts ?
Tout à fait. En matière de financement, si l'accédant peut choisir toute offre de crédit, le vendeur doit lui garantir l'engagement d'un établissement de crédit, de lui proposer une offre lui permettant de financer son achat en cas de levée de l'option. Cette offre comportera un prêt principal et des prêts complémentaires parmi lesquels le prêt à taux zéro. S'agissant du financement principal, l'accédant peut, sous réserve d'une solvabilité suffisante, demander le transfert du PSLA à son profit pour financer son achat. L'intérêt étant de pouvoir récupérer les conditions auxquelles le prêt avait pu être accordé. En complément du financement principal, il sera possible de solliciter des dispositifs comme le prêt à taux zéro ou encore, sous condition, le prêt accession d'Action Logement.
Thierry, je reviens sur l'attractivité de la location-accession. Avec de tels avantages, ne doit-on pas craindre un effet d'aubaine ? Je pense à un achat de pure spéculation immobilière. Est-ce que des moyens sont mis en place pour éviter justement cela ?
Effectivement. Au vu des nombreux avantages de la location-accession, certains pourraient y voir une opportunité de faire une bonne affaire financière en achetant à un tarif très attractif et en revendant rapidement le bien au prix du marché, afin de générer une plus-value significative. Ces opérations sont donc très encadrées. Fiscalement, tout d'abord. Ainsi, en cas de cession du logement dans les 10 ans, il sera demandé le versement d'un complément d'impôt résultant de la différence entre le taux réduit appliqué et le taux normal de TVA, diminué d'un dixième par année de détention à compter de la première année. Et les collectivités locales qui encouragent et accompagnent sur leur territoire ce type d'opération d'accession sociale prévoient très souvent des clauses anti-spéculatives.
Clauses anti-spéculatives, de quoi s'agit-il précisément ?
Ces clauses visent à éviter que le bénéficiaire de l'aide publique accordée ne détourne l'objectif initial de cette dernière, à savoir faciliter le parcours résidentiel pour une autre fin, c'est-à-dire la vente avec plus-value. Ce qui apparaîtrait ici légitime compte tenu de l'aide publique apportée au moment de l'acquisition. Il pourra ainsi s'agir de limiter la liberté de l'acquéreur de disposer de son bien pendant un certain délai, par exemple en imposant l'utilisation du bien en tant que résidence principale et en empêchant ainsi qu'il soit mis en location sur cette période, ou encore d'empêcher la réalisation d'une plus-value en prévoyant le remboursement de l'avantage financier obtenu en cas de vente du bien sous un certain délai. Bien entendu, pour ne pas non plus être abusives, ces clauses doivent prendre en compte certains événements auxquels l'accédant peut être confronté au cours de l'occupation du bien. Ainsi, en cas d'accident de la vie, un divorce, décès par exemple, ou encore un changement professionnel, une mutation, un chômage, une mobilité professionnelle par exemple, il sera possible d'écarter la clause antispéculative.
Merci à notre expert Thierry Moalic. On retiendra que la location-accession offre une véritable opportunité d'accession à la propriété et qu'elle s'accompagne de nombreux avantages comme un prix d'achat maîtrisé, une exonération de taxes foncières pendant 15 ans et des garanties protégeant l'acquéreur des aléas de la vie. Ce dispositif, au même titre que le bail réel solidaire que nous avions déjà abordé, est donc un outil fondamental de l'accession sociale à la propriété. Il y a tout lieu d'encourager son développement en PACA et dans les Bouches-du-Rhône, où le marché est souvent très tendu. Rendez-vous mardi prochain pour un autre sujet dans le logement, comment ça marche ?